Pour réfléchir ensemble au panorama des sources d'énergie, je vous ai rappelé sur cette diapositive les différentes sources d'énergie. Il y en a qu'on connaît bien, qui sont les... Il faut un micro ? Bon, alors il faut un micro. D'accord. Donc, parmi les sources d'énergie, il y en a qu'on connaît bien, qui sont les sources d'énergie classiques qui nous entourent, pétrole, gaz et charbon. Je pense ici, notamment dans la région, qu'on connaît quand même bien le charbon. Et puis, il y a des énergies, donc celles-ci, on les appelle fossiles. Alors, on les appelle fossiles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'elles sont dans le sous-sol, parce que l'or, le fer, etc. sont des minéraux qui sont dans le sous-sol, et on ne les appelle pas des fossiles. Ce qu'on appelle des énergies fossiles, c'est des énergies qui proviennent de la décomposition des plantes, mais il y a plusieurs millions d'années. Et donc, le pétrole, le gaz et le charbon font partie de ces sources d'énergie, qu'on appelle donc les énergies fossiles. À côté, il y a une autre source d'énergie qui est l'uranium, qui sert à faire de l'énergie nucléaire, qui est un minerai qu'on trouve dans le sous-sol. Il y a des mines d'uranium. Et puis, il y a les fameuses énergies renouvelables auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, vous les voyez ici, quelques-unes. Hydraulique, l'éolien, le solaire, la biomasse et la géothermie. Alors, il faut que j'aille d'un côté ou de l'autre. Ça va pas être facile. Voilà, alors Parmi tout ce qu'on consomme aujourd'hui, vous avez là un espèce de diagramme qui vous donne une idée de ce qu'on consomme. Alors quand je dis tous, c'est tous ensemble sur la planète, donc les 6,5 milliards d'individus, puisqu'on est à peu près cette population-là sur la planète. Eh bien, vous voyez que tout ce qu'on consomme, c'est principalement, si j'ajoute le camembert, la part orange, la part jaune et la part grise, ce sont principalement des énergies que j'ai appelées fossiles, pétrole, gaz et charbon. Ces énergies fossiles, elles ont deux grands inconvénients. L'un, c'est d'émettre du gaz carbonique qui est responsable de l'effet de serre, donc du CO2. Et le deuxième, c'est d'être des énergies qui sont limitées au sens où les ressources sont limitées. Et par exemple, on a l'habitude de considérer que si on extrait le charbon de la planète à la vitesse à laquelle on l'extrait aujourd'hui, on en a pour à peu près 200 ans. Le pétrole, on peut compter qu'on en a pour à peu près 50 ans. Donc on a là à la fois un double défi, c'est-à-dire un défi climatique, si on veut préserver l'environnement, on veut privilégier des sources d'énergie qui n'émettent pas de gaz carbonique, qui n'émettent pas de CO2. Et puis le fait que de toute façon, ces sources d'énergie étant limitées, il faut aussi préserver les ressources. Donc on a là ce qu'on appelle un défi climatique et j'ai envie de dire un défi environnemental. On va y arriver. Alors on va regarder ensemble juste quelques considérations sur cette fois-ci la population de la planète. Et ah, j'ai affaire à un spécialiste de la vidéo. Ah ben voilà. Comme quoi les idées les plus simples, on n'y pense pas toujours, voilà. Donc le monde actuel, il faut s'en souvenir, est un monde que j'appelle moi en tout cas fait d'extrême. Fait d'extrême pourquoi? Parce que vous voyez là sur ce graphique, on va parler des 6,4 milliards d'habitants de la planète Terre. Et je les ai classés sur l'axe horizontal de 0 à 6,4. Et vous allez voir comment je les classe. Vous avez des gens qui sont d'une pauvreté extrême. Qu'est-ce que j'entends par pauvreté extrême? C'est-à-dire pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, moins de 1 euro par jour pour vivre. Ces gens-là, ils sont 1 milliard sur la Terre quand même. Hein. Il faut s'en souvenir. Et vous avez de l'autre côté les pays qu'on appelle des pays riches, des pays civilisés, auxquels nous faisons bien sûr partie, qui sont regroupés dans une organisation qui s'appelle l'OCDE, peu importe son nom. Et là, il y en a de notre côté 1,1 milliard de privilégiés. Vous êtes dans ce milliard-là. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Les pauvres, effectivement, 30 000 enfants meurent par jour dans ce milliard-là. Donc ça fait quand même un certain événement, ça, quand même. Hein. De l'autre côté, les riches, entre guillemets, l'OCDE, dont fait partie, comme je l'ai indiqué, notre pays, ils consomment 80% des ressources de la planète. Donc vous voyez déjà, ils sont 1 milliard sur 6 milliards. Par contre, ils se partagent déjà 80% du gâteau. De l'autre côté, tous ces pays-là, et cette fois-ci je vais de 0 à 5 milliards, c'est-à-dire les 5 autres milliards, ce sont des pays dits pauvres ou en voie de développement, et eux, ils sont 75 millions de plus chaque année. Donc vous voyez qu'on a affaire cette fois-ci à un défi que j'appellerais démographique, qui est que peu de gens consomment toutes les ressources de la planète. Alors quand je dis toutes, c'est à peine exagéré. Vous voyez qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'électricité, il faut s'en souvenir, sur les 6, et qu'il y en a 4 milliards qui ont peu d'électricité, par exemple, en termes de sources d'énergie. Sur l'eau, c'est la même chose. Vous en avez 2 milliards qui n'ont quasiment pas d'eau et 4 milliards qui sont victimes des pénuries d'eau. Alors vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau, ça sert pour les cultures, ça sert aussi pour laver, pour désinfecter en partie, pour bien sûr pour la soif, ça va de soi. Et donc vous voyez, on a une population qui est là majoritaire et qui, en termes d'énergie, de source d'énergie, est tout à fait dépourvue de ce genre de choses. Voilà, alors on a l'habitude de les classer en pauvreté extrême, vous voyez, pauvreté modérée, secteur avancé, et les pays riches, et nous sommes dans les pays riches, et donc ma conclusion elle est en bas, c'est qu'il n'y a pas de ressources énergétiques pour tout le monde, et comme la population est en train d'augmenter dans les pays en voie de développement, ben, il y en aura de moins en moins. Donc la problématique énergétique, c'est une problématique sociétale, environnementale, et bien sûr aussi scientifique et technique, puisqu'il faut savoir extraire et utiliser ces différentes sources d'énergie. Donc les défis, on peut les donner de deux façons différentes. Ils sont à la fois climatiques et démographiques. Après, on va tout de suite arriver aux sources d'énergie. Mais en gros, il faut émettre le moins possible de gaz carbonique, nourrir ou éclairer ou chauffer un plus grand nombre de gens. Et ça, en tenant compte des défis environnementaux, c'est-à-dire essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a là, effectivement, une sorte de problème difficile à résoudre au XXIe siècle. Produire sans gaz carbonique, en produire le plus possible et préserver les ressources environnementales. Alors si je reviens à mes énergies renouvelables, donc on a l'habitude de les classer en 5 grandes catégories, on va les passer un peu en revue et voir les différents usages de chacune. Pourquoi on les appelle renouvelables d'abord? Juste un mot, on les appelle renouvelables parce qu'elles se renouvellent au fur et à mesure qu'on les consomme, et ça à l'échelle humaine. Alors à l'échelle humaine, ça peut être à l'échelle de quelques semaines ou à l'échelle de quelques années. Typiquement l'eau, c'est le cas, hein. L'eau, il y a un cycle d'évaporation, condensation, il pleut, etc., ça ruisselle sur le sol, ça nourrit les nappes phréatiques, les rivières, etc. Ça peut être le cas pour le soleil. Vous savez que le soleil nous éclaire parce que en permanence il y a une réaction de fusion nucléaire à l'intérieur du soleil qui fait que cette source d'énergie elle se renouvelle à la vitesse de l'échelle humaine. Bien sûr, le soleil va s'arrêter à un moment donné, hein. D'ici quelques milliards d'années il n'y aura plus de soleil, mais à notre échelle, à nous, on ne voit pas la différence. Hein. Et puis la biomasse, bien sûr, en termes de forestation et déforestation, c'est un renouvelable si, bien sûr, on replante ce qu'on a et bien évidemment consommé. Hein. Ça va de soi. Ça peut être aussi ce qu'on appelle par extension une ressource renouvelable, quelque chose dont on utilise une infime partie. En l'occurrence, c'est la géothermie, la chaleur qui vient du sol. Il y en a beaucoup, on en utilise très peu, donc finalement, on sait que ça, c'est quasiment illimité, et donc on appelle ça par extension renouvelable. Ces ressources d'énergie renouvelable, elles sont par nature diluées ou dispersées. Alors, je prends un exemple typique, le soleil, qui envoie ses rayons sur la Terre, c'est une énergie qui finalement est dispersée, qui est une faible énergie. On prend éventuellement un coup de soleil si on reste un peu trop longtemps, mais enfin on ne meurt pas dès qu'on sort au soleil grillé instantanément. Donc vous avez là, par leur nature, des sources d'énergie qui sont dispersées, et donc on pense déjà à leur utilisation, et on voit que si c'est dispersé, soit il faut l'utiliser à une petite échelle, donc à l'échelle locale par exemple, soit il faut savoir les reconcentrer d'une telle façon à ce qu'elles soient moins diluées ou moins dispersées. Alors cette reconcentration, par exemple, elle est classique dans le cas de l'eau. Vous ne mettez pas un barrage sur un petit ruisseau, vous mettez un barrage sur un grand fleuve ou sur une rivière. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez reconcentré l'eau par l'intermédiaire des bassins hydrauliques, de telle façon à ce que vous avez une grande quantité d'eau pour faire tourner un barrage. Ça peut se reconcentrer sous forme de ce qu'on appelle les fermes d'éoliennes. En général, on ne met pas une éolienne, mais on en met un grand nombre. Et ensuite, on peut faire passer l'électricité qui convient produite à partir de ces fermes. En termes de cellules solaires, vous avez sans doute peut-être déjà vu des panneaux photovoltaïques, ça comprend plusieurs cellules qui sont mises côte à côte. Donc on a toujours une reconcentration, parce que cette énergie, elle est par nature diluée. Troisième grande caractéristique, elles sont intermittentes. Alors ça va de soi, le soleil, il y a le jour et la nuit, donc vous savez bien qu'on ne peut pas faire fonctionner des cellules photovoltaïques la nuit. Les éoliennes, ça ne marche que quand il y a du vent, donc ça c'est le moins qu'on puisse dire. Au passage, on peut donner un ordre d'idée, une éolienne, ça marche entre 20 et 30% du temps sur une année complète, si on fait la moyenne. Dans les pays les plus exposés au vent, c'est 25% d'à peu près du temps. Hein. Donc là encore, ces sources intermittentes, elles sont du coup facilement utilisables dans un usage local, ce qu'on appelle non raccordé à un réseau. Exemple, la cellule solaire peut vous fournir votre électricité si vous êtes dans un bled paumé, non raccordé à ce qu'on appelle un réseau électrique. Vous en avez suffisamment, parce que pendant la journée, vous allez accumuler suffisamment d'énergie pour pouvoir vous éclairer le soir. Vous ne pourrez pas éclairer votre voisin du voisin, et ainsi de suite. Donc on a l'idée, en termes d'intermittence, on a l'idée que le stockage est quelque chose d'important. Si on sait stocker, on pourra en faire profiter les autres, où on pourra en faire profiter soi-même à un moment donné où il n'y a pas de vent, par exemple. Si vous n'avez qu'une éolienne qui produit votre électricité, quand il n'y a pas de vent, pas d'électricité. D'où l'importance de savoir stocker cette affaire-là. Une autre idée dans l'intermittence, c'est qu'effectivement, quand on a mis tout ça ensemble et qu'on a fait ce qu'on appelle des fermes, donc par exemple des fermes d'éoliennes, eh bien s'il n'y a pas de vent, on a tout d'un coup une grande perte d'électricité, puisqu'on ne produit plus d'électricité. Alors ça, il faut savoir que dans un réseau électrique, qu'on appelle un réseau électrique, donc celui qui existe en France et qui est notamment sous la houlette de EDF, enfin c'est une filiale d'EDF, le réseau, il n'aime pas. Et il n'aime pas ça, il n'aime pas ne pas avoir une quantité de courant qui soit la même. Et donc, dans ces cas-là, on a affaire à ce qu'on appelle les solutions de remplacement. Solutions de remplacement, c'est quelque chose qui démarre vite et qui fait autant d'électricité que l'éolienne qui vient de s'arrêter. Il faut savoir que dans ces cas-là, si vous utilisez une source de remplacement qui ne soit pas spécialement ni renouvelable ni verte, eh bien vous allez avoir des problèmes d'environnement qui sont ceux que vous pensiez résoudre en mettant des éoliennes. Donc là, c'est une difficulté. Par exemple, l'intermittence crée cette difficulté-là. Dernier point, les énergies renouvelables, elles ne datent pas d'hier. On a l'habitude de considérer ça, d'être un peu à la mode et de dire oui, les renouvelables. Pour mémoire, quand même, je veux dire, la biomasse. Qu'est-ce que c'est la biomasse? C'est faire brûler du bois pour faire cuire son repas. Eh bien, l'âge du feu, c'est 500 000 ans avant Jésus-Christ. Les moulins, que ce soit des moulins à vent ou des moulins à eau, c'est utilisé depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on sait aussi orienter correctement les maisons pour faire en sorte que le soleil puisse chauffer les maisons de façon correcte. Après, plus près de nous, ce qu'on appelle la photoélectricité ou les cellules photovoltaïques, les cellules solaires qu'on a l'habitude de voir, ça a été découvert par un physicien qui s'appelle M. Becquerel en 1839, donc c'est un peu loin de chez nous, mais enfin, c'est quand même c'est un peu plus proche de nos vies actuelles. J'ai mis à côté, vous les retrouverez éventuellement si c'est sur la présentation, un certain nombre de dates pour voir quand est-ce qu'on a fait, par exemple, le premier moteur à explosion qui sert donc à faire fonctionner les voitures. Hein, c'est 1842, pour donner un ordre d'idée. La première ville éclairée à l'électricité, c'est 1886, c'est un petit bled du Massif central dans la Creuse. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc voilà, les grandes caractéristiques, je les ai résumées là, hein, comme je vous le disais, quelque chose qui se renouvelle, plutôt dispersé, intermittent, pas toujours très neuf comme idée. Et maintenant, on va voir à quoi ça peut servir, ces sources-là. Toutes ne sont pas adaptées aux mêmes utilisations, aux mêmes usages. Il va falloir choisir. Alors, les trois grandes utilisations des sources d'énergie, elles sont ici. On utilise de l'énergie en général pour la chaleur, donc soit pour se chauffer, soit pour faire cuire des aliments, donc pour se nourrir. On utilise l'énergie pour faire de l'électricité, et puis on utilise de l'énergie pour se transporter, se déplacer. À partir de là, chacun de ces trois modes d'utilisation impose bien sûr des cahiers des charges, des caractéristiques qui sont différentes. Vous voyez bien, par exemple, que si je prends l'exemple d'une centrale nucléaire, ça produit de l'électricité, vous n'avez pas de voiture nucléaire. Aucune voiture ne marche avec un moteur nucléaire. Pourquoi? Parce que le poids, l'encombrement d'un réacteur nucléaire ne convient pas à une voiture. Donc par exemple, dans le transport, on imagine tout de suite qu'il y a une contrainte de poids. À l'inverse, par exemple, la chaleur, vous voyez bien que la chaleur, c'est quelque chose qui ne se transporte pas. Sauf cas particulier, la source de chaleur qui vous chauffe dans le bâtiment ou qui vous chauffe chez vous, elle est en général pas à 1000 km de votre bâtiment. En revanche, si je prends l'électricité, autre moyen d'utiliser les sources d'énergie, eh bien au contraire, l'électricité, alors qu'il est le courant électrique qui nous éclaire là, peut-être qu'il vient d'un autre pays que la France, même d'ailleurs, qui est situé à plusieurs milliers de kilomètres. Donc vous voyez que chaque utilisation a des contraintes différentes. Au contraire, l'électricité, je ne la stocke pas. Quand est-ce qu'on stocke l'électricité? C'est dans les batteries. Vous voyez que les batteries, si vous avez déjà eu à démonter ou des pannes de voiture, la batterie, c'est quelque chose d'assez lourd. Ou c'est quelque chose qui est plus petit, mais qui n'a pas une grande énergie. La batterie qu'on rencontre tous les jours dans la vie courante, c'est la pile ou la batterie de son téléphone portable. Si vous enlevez le téléphone portable, vous voyez bien que par exemple, il est très léger. Ou le micro, c'est pareil. La batterie, c'est quelque chose de très lourd, très encombrant. Donc on a là effectivement des contraintes qui dépendent de l'utilisation qu'on peut faire des différentes sources d'énergie. Juste ce point, voilà, vous avez là un graphique qui donne les différentes sources d'énergie depuis 1970 jusqu'à 2008, donc avec différentes couleurs. Vous voyez que par exemple, ce qu'on consomme beaucoup, c'est la fameuse électricité, c'est le bleu clair, ou le pétrole qui est en violet. Et suivant les usages, comme je vous le disais, eh bien, chaque source d'énergie est sollicitée de façon différente. J'ai pris le graphique qui est ici en bas à gauche. Vous voyez évidemment que dans les transports, à 93%, on utilise du pétrole. Quand je dis pétrole, c'est pétrole, essence, diesel, un co. Donc effectivement, l'usage qu'on en fait, fait qu'on détermine les sources d'énergie qui sont le plus adaptées. Quant à nos renouvelables, alors qu'est-ce qu'ils représentent sur à l'échelle d'un pays comme la France? Sur la production nationale d'énergie, en 2009, ils représentent 15%. Et dans ces 15%, vous avez la répartition sur le graphique qui est ici, vous avez 46% de ces 15% qui sont essentiellement liés à l'utilisation du bois en tant qu'énergie. Donc en gros, c'est le feu de cheminée, à peu de choses près, qui déjà consomme la moitié de la production nationale des énergies renouvelables. Je rappelle que le bois est considéré comme renouvelable, si bien sûr on replante les espèces qui ont servi à utiliser les arbres pour le bois de chauffe. Donc voilà, vous voyez qu'on retrouve ensuite nos différents éléments. L'hydraulique, 25% de ces 15%, les biocarburants dont on va parler, et puis toute une série que j'ai mis sous autre, là, toute une série de sources d'énergie que j'ai évoquées avec vous, notamment l'éolien, la géothermie, le solaire. Donc on va essayer de regarder chacune de ces sources d'énergie un peu plus en détail pour voir à quoi elles peuvent ressembler. Les renouvelables, voilà. L'hydraulique. Donc l'hydraulique, on sait, comme je vous le disais, que c'est utilisé depuis très longtemps dans le monde. Et ça a eu une grande adaptation, c'est au 19e siècle. Au 19e siècle, on a découvert la turbine et l'alternateur, c'est-à-dire qu'on a pu, à partir du mouvement d'une turbine, produire l'électricité. Donc c'est par rapport à ce qu'on appelait la houille, l'électricité a été appelée au début la houille blanche, parce que par opposition donc au charbon, on avait là quelque chose qui, notamment, c'était utilisé dans les chutes d'eau dans les pays montagneux, donc ça rappelait un peu la neige, et donc c'était l'idée de la houille blanche. C'est forcément renouvelable, que comme je le disais, c'est dû au cycle de l'eau, évaporation de l'eau, ou bien infiltration dans le sous-sol, ça retourne dans les nappes phréatiques, donc on voit bien qu'on a un cycle sur cette affaire-là. Et on l'utilise de deux façons différentes. Soit on utilise l'énergie cinétique de l'eau dans le cas d'eau qui coule, du courant, soit on utilise son énergie potentielle en le faisant tomber de haut en bas. C'est typiquement les centrales hydroélectriques qu'on voit parfois en montagne avec les grandes conduites forcées. Donc on utilise soit rivière et fleuve, soit marée et courant. Je vais en donner juste quelques exemples. L'avantage considérable de cette énergie hydraulique, c'est qu'on peut stocker cette énergie. Alors je vous ai dit que l'électricité ça stockait mal, mais dans ce cas-là on stocke l'eau. Et donc on a une réserve d'électricité, dès l'instant qu'on a stocké l'eau derrière le barrage, on peut à un moment donné déclencher les vannes et donc produire de l'électricité. Donc c'est pas l'électricité véritablement qu'on stocke, mais c'est l'eau qui sert à faire l'électricité. Alors pour donner un ordre d'idée, un des plus grands barrages de France, qui est le barrage de Grand Maison, il fait l'équivalent de 2 centrales nucléaires en 3 minutes. C'est l'équivalent comme si on rajoutait sur le réseau électrique 2 centrales nucléaires en 3 minutes. Il faut savoir que pour faire démarrer une centrale nucléaire, il faut environ une semaine. Donc le EDF qui a à sa disposition plusieurs sources d'énergie, s'il y a une grande demande d'énergie, hein, typiquement il fait froid, on est l'hiver, etc. Vous avez dû voir, il y a des pics de consommation qui arrivent là au mois de décembre ou au mois de janvier. Si on veut plus d'énergie, si on dit tiens, je vais mettre en route je sais pas quel réacteur de Gravelines ou je sais quoi, une semaine après on aura le résultat. Donc l'eau est une fantastique réserve de gestion des irrégularités de la demande d'électricité par rapport à la production. C'est qu'on peut effectivement, dans ce cas-là, déclencher des réserves d'eau qui donnent lieu à une production d'électricité assez rapide. Bien évidemment, quand l'électricité n'est pas utilisée, on peut l'utiliser pour pomper l'eau qui est en bas et la faire remonter dans le lac qui est au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les stations de pompage, puisqu'il y a des moments de la journée où on n'utilise pas toute l'électricité qu'on produit. Et vice-versa, il y a des moments où on aimerait bien l'utiliser. Donc l'eau, c'est, comme je le disais, c'est la seule façon naturelle de reconcentrer l'affaire, hein, puisque c'est dû aux pentes simplement sur lesquelles l'eau ruisselle. C'est le seul moyen de production massive et centralisée d'électricité avec des énergies renouvelables. Les autres ne sont pas des productions massives d'électricité. Votre cellule solaire, elle va vous donner une production locale d'une petite électricité, votre éolienne de la même chose, ici avec un barrage, comme je le disais, un barrage, vous avez l'équivalent quasiment d'une centrale nucléaire. Et c'est le seul moyen, cette fois-ci avec l'énergie nucléaire, de production massive et centralisée d'électricité, sans utiliser, comme je le disais, d'énergie fossile, donc sans émettre de gaz à effet de serre de type CO2. Voilà. Celui-là, on va le passer. Alors, les énergies renouvelables en France, elles se manifestent en termes de production d'électricité, par exemple, à hauteur de 13%. Vous savez, la France est un pays un peu spécial, on fait de notre électricité à partir du nucléaire, c'est une exception dans le grand nombre de pays. 75% de notre électricité provient du nucléaire. Eh bien, 13% provient des énergies renouvelables. Et dans ces 13%, il y a beaucoup d'hydraulique, des barrages. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays montagneux. Et donc, alors même si ici on a un peu moins de montagne qu'ailleurs, on est un pays montagneux et donc on profite de ce relief pour au maximum produire de l'électricité à partir de l'énergie hydraulique. Voilà, la puissance hydraulique installée dans le monde, alors c'est des gigawatts, c'est la façon dont on mesure la puissance, une unité, hein, avec des très grands projets. Vous avez un projet par exemple en Chine, qui s'appelle le barrage des Trois Gorges. Peut-être vous en avez entendu parler, parce que c'est un barrage en construction qui a donné lieu à des déplacements de plus de 1 million de personnes. On a déplacé plus de 1 million de personnes pour créer le barrage. Barrage qui fait 18 gigawatts, 640 km de long, le lac, pour donner un ordre d'idée, hein, et quelques kilomètres de large. Donc c'est quand même des projets qui sont assez importants. La France se situe en termes de production au 9e rang mondial, avec la production d'énergie à partir de sources hydrauliques. Et en France, on est à peu près équipé, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette énergie renouvelable hydraulique, elle a son futur dans les pays tels que l'Asie ou l'Amérique du Sud. Parce que ces pays ne sont pas du tout encore équipés, et on pourra faire d'autres barrages, on pourra faire d'autres installations, alors qu'en France, on est déjà, j'ai envie de dire, on a à peu près utilisé tout ce que le réseau hydrographique pouvait nous permettre d'utiliser. Donc les grands projets, c'est surtout en Asie. Alors, j'ai pas parlé de l'Afrique. Certes, l'Afrique a aussi de grands potentiels en termes d'hydraulique, mais ils ont un potentiel qui leur manque, c'est l'argent, tout simplement. Parce que construire un barrage, ça coûte cher. Et pour construire un barrage qui coûte cher, c'est un gros investissement. Il faut soit un État fort, soit des industriels qui sont suffisamment prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à se développer en Asie et en Amérique du Sud, qui sont des pays riches, relativement riches, en tout cas par rapport aux pays d'Afrique. Voilà, les potentialités, vous voyez en bas, simplement, si vous voyez la barre verte, là, en Asie, on a utilisé 20% des potentialités, donc il en reste 80% à explorer. En Amérique du Sud, pareil, et en Afrique, 7% seulement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous. Alors, il est clair que pour construire un barrage, on doit tenir compte aussi de contraintes, qui sont des contraintes qui peuvent être géologiques, il faut que le barrage puisse tenir, donc, etc., qui peuvent être humaines. Si on déplace 5 millions de personnes pour construire un barrage, ben peut-être qu'on préférera le construire ailleurs. Ça aussi fait partie de l'aménagement d'un territoire en termes de sources d'énergie. Un autre exemple que je voulais évoquer avec vous, c'était utiliser l'énergie des marées ou des courants. C'est ce qu'on appelle les hydroliennes. Ça revient à être des éoliennes sous l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise la force du courant dans certains sites bien adaptés. On peut à ce moment-là, à partir de turbines qu'on immerge, eh bien, utiliser la force du courant pour faire tourner cette turbine et produire de l'électricité. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce que il faut calculer l'endroit où on le met. Tous les sites ne sont pas du tout adaptés. Et puis bien sûr, il faut maintenir cette affaire-là en termes de maintenance. Vous êtes dans de l'eau de mer, il y a du sable, il y a des courants, donc c'est des installations qui coûtent cher et qui coûteront aussi cher à entretenir. Mais il y a des projets dans différents pays, sur les côtes de Norvège, en Bretagne. En France aussi, on en a un qui est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Petit projet pour l'instant, mais qui est mené par EDF et qui va servir de test un peu pour voir si on sait faire ça et si c'est rentable de le faire à l'échelle d'un pays comme le nôtre. Vous voyez, ce raccordement expérimental de cette première ferme d'hydroliennes, cette fois-ci, est prévu en 2011. L'éolien. Alors l'éolien, d'où ça vient d'abord cette affaire ? ça vient d'un réchauffement. En fait, l'éolien, ça provient, on pourrait l'appeler le solaire aussi. Hein. L'existence des vents provient en fait du rayonnement solaire sur la Terre. Rayonnement solaire qui réchauffe de façon inégale différentes parties, soit que ce rayonnement solaire tombe sur de l'eau ou de la Terre, soit qu'il tombe sur une vallée ou sur un sommet, et soit, suivant l'inclinaison de la Terre, l'endroit où il tombe. À ce moment-là, ça crée effectivement des courants, et ces courants, il suffit de récupérer l'énergie cinétique de ces courants d'air, de ces vents, pour faire tourner un moulin qui soit destiné à la production électrique ou à l'énergie mécanique. Hein. Je rappelle que le principe du moulin, c'est au départ de broyer les grains de farine, de céréales, de tout ce qu'on veut. Ça a eu un grand renouveau depuis 1975 environ, après avoir été beaucoup utilisé dans la cité, bien sûr. Hein. Les deux principaux usages, vous les avez là, c'était, on voit encore ça dans certains prés ou près de certaines fermes, c'est le pompage de l'eau, hein, principalement pour alimenter le bétail, avec une éolienne avec ses pales là, qu'on voit sur la première photo en haut. Là. Voilà. Après, depuis donc quelques années, comme je le disais, on a fait des éoliennes destinées à la production directe d'électricité, qui sont de plus en plus grandes, qui vont jusqu'à 2000 kW ou 2 MW, voire même 3 MW maintenant, avec des pales dont le diamètre est aux alentours de 100 mètres, hein, ce qui quand même représente un certain volume dans le paysage d'ailleurs. Alors vous voyez, ici vous avez la puissance éolienne, donc on mesure le nombre d'éoliennes qu'on a installées, hein, dans le monde depuis 1993 à 2009. Vous voyez la courbe, hein, ça monte quand même de façon sérieuse. Donc c'est quelque chose qui est en fort développement. Vous avez dans le graphique en bas le bleu, alors est-ce que ça se voit, le bleu clair, c'est l'Europe. Donc vous avez 48% des éoliennes qui sont installées en Europe, pour vous donner un ordre d'idée. Et par contre, c'est un marché en telle expansion que les pays en voie de développement que j'évoquais tout à l'heure s'y mettent. Et le marché chinois, en 2009, ce sont les Chinois qui ont acheté le plus d'éoliennes. Donc le marché chinois est le premier marché mondial pour l'éolien depuis 2009, donc depuis l'année dernière. Le parc éolien européen, vous l'avez ici, vous avez en gros, plus le rond bleu sur chaque pays est grand, plus le parc éolien est développé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que les deux premiers, c'est l'Allemagne et l'Espagne, et que la France est quatrième dans cette utilisation de l'énergie éolienne pour produire de l'électricité. Donc, vous avez des pays qui sont effectivement plutôt des pays côtiers, je pense à l'Espagne ou à la France, qui a quand même un grand nombre de côtes. Et puis, ce n'est pas forcément lié à l'aspect des côtes, puisque vous avez les Allemands, qui sont les premiers, et qui sont un pays qui a beaucoup moins de côtes que la France. Alors, on utilise maintenant, ce qu'on appelle les éoliens offshore, c'est-à-dire les éoliens en mer, cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y avait notamment plus de jours avec du vent au bord d'un océan, ou plutôt qu'à l'intérieur des terres. Simplement, la grande difficulté, c'est de ramener l'électricité produite dans le pays d'origine. Donc, qui dit électricité produite, dit câble, dit, etc., câble sous-marin. Donc, si on est à 30 km, ça fait 30 km de câbles, hein, donc qu'il faut entretenir, qui sont corrodés par le sel de l'eau, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose de très prometteur. Mais voyez, pour l'instant, on en a... Alors, en Europe, on a 74 000 mégawatts, il n'y en a que 2 000 qui sont installés offshore. Le plus grand parc éolien offshore du monde, j'ai pris cet exemple-là pour vous donner un ordre d'idée, il est au large du Danemark. Il a été inauguré l'année dernière, en septembre 2009. Et on a donc 91 éoliennes à 30 km des côtes. Ça représente une surface de 35 km², donc 5 km sur 7 hein, à peu près, par exemple. Et ça a coûté 470 millions d'euros, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Le prochain sur la Terre, le plus parc d'éolien terrestre, qui va être construit, c'est aux États-Unis, c'est dans l'Oregon, mais c'est un état proche de la Californie, et en fait il va surtout servir à alimenter en électricité la Californie, qui est un état beaucoup plus peuplé, donc beaucoup plus demandeur d'énergie que l'Oregon. 338 éoliennes, ça va faire une surface de 9 km sur 9, à peu près, un carré de 9 km sur 9, hein, et ça coûte 2 milliards d'euros. En France, vous voyez qu'on suit la même courbe que la courbe mondiale. Hein, on a une puissance installée qui augmente chaque année. Vous voyez la pente hein, qui est quand même une augmentation très très positive depuis 1996 jusqu'à 2009. Et on considère que cette courbe va encore augmenter hein, en 2010. si jamais j'ai pas les chiffres de 2010 puisque l'année n'est pas tout à fait terminée, mais on est encore au-dessus de 2009. C'est une source d'énergie qui est en développement, notamment dans les pays européens et bien sûr en France. Deux grands projets, alors il y en a un qui est pas loin de chez vous, qui est dans le Pas-de-Calais, à Fruges, hein, donc qui a été inauguré en 2009. 70 éoliennes, donc ça fait 140 mégawatts, voilà. Et un autre qui a été inauguré dans l'Aveyron, cette fois-ci, donc dans la région Midi-Pyrénées, hein, en décembre 2008, avec 29 éoliennes. Vous avez la petite carte de France qui vous donne une idée de la répartition des vents, notamment les plus intéressants à exploiter. Plus c'est bleu foncé, meilleur c'est pour implanter les éoliennes. Donc vous voyez que votre région est pas mal placé pour ça, hein, et puis la région du Midi, comme on peut voir, les côtes de la Méditerranée aussi. L'énergie solaire, il faut se rappeler, comme je le disais, qu'elle est effectivement issue des réactions nucléaires qui ont lieu à chaque instant dans le Soleil et qui nous permettent de recevoir un rayonnement permanent, les rayons du Soleil qui nous éclairent, qui éclairent la planète Terre. Suivant les régions, la puissance qu'on reçoit est bien sûr différente. Enfin, tout le monde sait que effectivement, on attrape plus facilement un coup de soleil à Nice qu'à Dunkerque. Encore que ça dépend de son indice d'huile solaire et puis de la couleur de sa peau quand même. Donc voilà, on a un écart à peu près 3 sur la carte de France. Et vous avez cette fois-ci la carte qui vous permet de savoir que l'ensoleillement, eh bien voilà, c'est pas un grand scoop, hein, que plus on est au sud, meilleur est l'ensoleillement. Comment on utilise cette énergie solaire? De deux façons. On peut l'utiliser soit pour produire de la chaleur, comme je l'évoquais tout à l'heure avec vous, soit pour produire de l'électricité. Donc vous avez là une source qui est utilisée par deux des trois grandes utilisations que j'évoquais avec vous, chaleur, électricité, transport. Eh bien, pour l'énergie solaire, on peut directement l'utiliser soit pour faire de la chaleur, ce qu'on appelle le solaire thermique, soit pour faire de l'électricité, c'est ce qu'on appelle le solaire photovoltaïque, puisque l'effet photovoltaïque, comme ne l'indique pas son nom, est l'effet qui consiste, quand on éclaire un matériau, à faire en sorte qu'il passe dans le matériau un courant. On va l'évoquer tout de suite après. Le solaire thermique, c'est quoi? C'est utiliser le soleil pour produire son eau chaude ou son chauffage individuel ou collectif. Ça ne nécessite pas de très grandes températures. Une installation de chauffage central, c'est pas à 500 degrés, hein, c'est plus près de 50 à 60 degrés. C'est à base de ce qu'on appelle des capteurs plans, qui sont en général installés par exemple sur le toit de la maison. Et puis on récupère la chaleur par un fluide qui passe dans ces capteurs plans. Typiquement, tout le monde a fait l'exercice au moins une fois. Vous laissez votre tuyau d'arrosage en été sur votre pelouse. Vous avez décidé d'arroser Dieu sait qui. La première eau qui sort, c'est de l'eau chaude, même si vous avez mis de l'eau froide avant. Donc c'est exactement le même principe. C'est faire en sorte qu'on expose au rayonnement le maximum de liquide qui après qu'on pourra facilement transporter dans un autre endroit pour transporter la chaleur. Donc ça peut fournir par exemple en France hein, entre 50 et 70% des besoins en eau chaude d'une famille sur un an. Alors il s'agit de capteurs qu'on appelle en général plans. Il y en a d'autres races, je vous en fais grâce. On les met principalement effectivement sur les toits des habitations. L'idéal, c'est quand les toits sont horizontaux. Alors, c'est plutôt vrai dans les pays méditerranéens, les toits en terrasse, hein, dans les endroits où il n'y a pas de neige, hein, pour donner un ordre d'idée, hein, la Grèce, Turquie, Israël, etc. Sur les toits inclinés, les pays qui sont susceptibles de recevoir de la neige, c'est plus délicat, mais on arrive à le faire aussi. Et donc on peut utiliser des capteurs qui, dans lesquels on fait circuler de l'eau, et finalement, vous avez là un moyen de chauffage, à partir donc, comme je le disais, d'une source d'énergie renouvelable, puisque vous utilisez le solaire. Et le soleil est pas prêt de s'arrêter tout à fait quand même, on a encore pour quelques milliards d'années devant nous. Ça peut être aussi, comme sur la petite photo qui est ici, l'équivalent d'un réseau qui passe dans le plancher. Vous avez directement un plancher chauffant qui utilise l'eau qui est chauffée par le soleil sur les capteurs situés au-dessus de la maison. Voilà, le parc solaire thermique européen, pareil, une petite photographie européenne pour savoir où est-ce qu'on l'utilise le plus. Eh bien, on l'utilise le plus en Allemagne. Ensuite en Autriche, qui sont, vous voyez, pas des pays pourtant réputés pour être d'un climat méditerranéen particulièrement prononcé, hein. Donc comme quoi ça peut marcher, on n'est pas obligé d'habiter Nice pour avoir un chauffage solaire pour son eau chaude, hein. La Grèce, l'Italie, la France arrivent en cinquième position. Donc voilà, vous avez une petite photographie de l'aspect. Donc j'utilise le soleil pour faire mon eau chaude en gros, et mon chauffage. Voilà, alors la surface installée, puisque j'ai parlé de capteur, donc c'est quelque chose qui prend pas mal de place sur un toit, hein. La surface installée, vous l'avez sur l'Europe cumulée depuis 15 ans. Alors vous voyez un petit décrochement en 2009, alors pourquoi finalement en 2009 on en a moins installé que prévu et pourquoi ça continue pas cette fois-ci comme l'éolien? Alors ça c'est tout simple, la surface équivalente c'est à peu près 500 terrains de foot, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Pourquoi ça? Ben ça c'est quelque chose de tout simple, c'est que ces sources d'énergie de chauffage central ou de chauffage d'eau chaude solaire, c'est essentiellement des démarches individuelles. C'est vous qui décidez que dans la maison que vous faites construire ou dans la maison que vous avez construite, vous installez finalement un chauffe-eau solaire. Et ça, c'est tout simplement l'effet de la crise économique. C'est-à-dire que quand on est dans un système en crise et que finalement on a un peu moins de moyens que l'année d'avant, eh bien on décide de faire passer d'abord le nécessaire avant le luxe. Et qu'un chauffe-eau solaire, eh bien, c'est peut-être du luxe. En tout cas, c'est une installation qui coûte cher pour un individuel. Et donc ça, c'est typiquement l'effet de la crise financière sur un moyen individuel un peu sophistiqué, mais qui finalement coûte encore cher pour une famille ou pour un usage individuel. Et j'ajoute que ça a été corrélé avec la prime à la casse de la voiture. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2009, on a préféré renouveler sa voiture qu'acheter une installation de chauffe-eau solaire. La plus grande installation collective, c'est au Danemark. C'est une centrale qui fait 18 589 mètres carrés et qui chauffe 2300 habitants, pour donner un ordre d'idée. Alors, j'ai cherché dans le nord à quoi ça pouvait ressembler. Alors, il y a un petit village qui s'appelle Koutiche. Voilà, c'est à peu près comme si vous utilisiez 18 189 mètres carrés pour chauffer la ville de Koutiche. Celui-là, on va le passer. Le photovoltaïque, voilà. Cette fois-ci, on utilise le solaire pour faire de l'électricité. Simplement, comme je vous le disais, ça ne marche pas avec tous les matériaux. Hein. Il ne suffit pas d'éclairer un matériau pour récupérer de l'électricité. Ça marche qu'avec un seul très facile à utiliser, parce que c'est celui qui est très abondant sur la Terre, c'est le silicium. Simplement, le silicium, il faut en faire un petit peu autre chose. Le silicium, c'est celui qu'on utilise. C'est quand vous allez sur la plage, hein, vous êtes allongé sur du silicium, en gros. Hein. C'est le constituant numéro un du sable. Eh bien, donc ce silicium, moyennant un certain nombre de puretés, un certain nombre d'opérations, il peut être utilisé pour faire les cellules photovoltaïques. Je pense que vous avez déjà dû voir ces cellules, ça a un côté un peu gris avec un petit côté un peu brillant. C'est utilisé principalement pour deux choses, soit ce qu'on appelle hors réseau, c'est-à-dire pour des points isolés. On voit notamment ça pour les téléphones, par exemple, d'autoroute, ou on voit ça pour les horodateurs aussi, de parking, par exemple, qui ont besoin d'une énergie à un endroit où il n'y a pas de fil électrique pour aller les alimenter. C'est ce qu'on appelle une situation hors réseau. Et puis, bien sûr, c'est utilisé, connecté à un réseau. Alors ça, là aussi, vous voyez des particuliers, maintenant ça se voit beaucoup, qui ont sur le toit de leur maison un certain nombre de cellules photovoltaïques et qui donc utilisent ces cellules photovoltaïques pour revendre leur électricité à EDF. Si on la revend à EDF, c'est que donc on est connecté au réseau EDF. Voilà. Alors vous voyez, j'ai découpé une pub, j'ai enlevé le nom de... Hein, votre toit vous rapporte de l'argent. Hein, c'est notamment une utilisation très particulière des cellules photovoltaïques. Ça consiste non pas à vous éclairer vous, mais à revendre votre électricité à EDF et de récupérer l'électricité d'EDF. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'effectivement, il y a un tarif de rachat qui a été développé pour développer cette filière de photovoltaïque. Il y a un système de rachat qui est tel que on rachète l'électricité à un très bon prix. Donc c'est une des façons d'inciter les gens et la filière photovoltaïque à se développer dans notre pays. Et donc moyennant quoi, plutôt que de vous éclairer avec vos propres cellules photovoltaïques, vous revendez votre électricité à EDF et effectivement ça vous rapporte de l'argent. Parc solaire photovoltaïque, encore une petite photo européenne, principalement Allemagne, Espagne, la France arrive en sixième position cette fois-ci dans les installations de la puissance installée en termes de cellules photovoltaïques. Deux grands projets pour vous donner un ordre de grandeur. Hein. Les deux plus grandes, c'est en Espagne et en Italie, on appelle ça donc des fermes solaires. Là encore, donc vous mettez des panneaux solaires, mais seulement vous en mettez un grand nombre côte à côte. Hein. En Espagne, 160 000 panneaux, pour donner un ordre d'idée, et ça fournit l'électricité pour 40 000 familles. En Italie, 280 000 panneaux, ça fait quand même 850 000 mètres carrés, cette affaire. Vous voyez l'échelle, c'est toute l'échelle des routes ou des bâtiments qui sont à côté. Hein. et ça coûte, pour toujours donner un ordre de grandeur, 250 millions d'euros. L'Italie, voilà. C'est à Rovigo, et ça vient d'ouvrir 23 novembre 2010, donc vous voyez, c'est tout à fait une installation tout à fait récente. En France, je citais juste cet exemple, on en a un à Narbonne, donc endroit particulièrement bien ensoleillé, hein. C'était la troisième d'Europe, je pense qu'elle est déjà battue, puisque ça date de 2008, enfin 2007 et fin 2008. 80 000 m2 de panneaux et 23 hectares, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Un autre projet à Cahors, donc c'est un projet, le rassemblement de cellules photovoltaïques sous forme de ce qu'on appelle des fermes, c'est un projet qui a aussi, je veux dire, une réalité en France, pas seulement en Espagne ou en Italie. On fait des recherches sur le solaire photovoltaïque, pourquoi ? On fait des recherches parce que ce fameux silicium, on peut trouver le moyen de l'améliorer, d'améliorer son rendement, d'améliorer son coût, parce que c'est quelque chose qui est relativement cher, et donc de faire en sorte qu'on ait des produits qui coûtent moins cher et qui marchent mieux. Donc typiquement, c'est des recherches qui sont faites notamment par mes collègues du CEA, dans un institut qui s'appelle l'INES, qui est l'Institut National d'Énergie Solaire, qui se trouve être en Savoie, à Chambéry. Donc c'est un secteur où les recherches sont très, très actives. À l'opposé, j'ai envie de dire, pour vous redonner un ordre d'idée, l'éolien dont je parlais tout à l'heure, une fois qu'on a trouvé la forme de l'éolienne, qu'on a vu qu'en général c'était mieux de mettre 3 pales plutôt que 4, en général vous regardez, toutes les éoliennes auront 3 pales maintenant, eh bien il y a pas énormément de recherche qui est à faire là-dessus. Tout est fait, c'est simplement après qu'on va développer des projets de plus en plus grands, et donc il y a éventuellement des questions de matériaux, mais ça s'arrête là, de résistance aux matériaux. Dans le solaire, vous avez affaire à toute une série de physique et de chimie qui est plus élaborée, et donc vous avez là encore toute une piste de recherche sur lesquelles travaillent les chercheurs d'aujourd'hui. Dans le monde, vous voyez que les cellules solaires photovoltaïques, le bleu c'est l'Espagne, en 2009, l'Espagne a installé la moitié du parc de cellules photovoltaïques du monde. Depuis, ils sont un peu calmés, mais en France, voilà, je voulais évoquer, voilà. La géothermie, et ça sera mon avant-dernier point, la géothermie, donc, c'est utiliser la chaleur du sol. Alors, cette chaleur du sol, d'où elle vient ? Elle vient essentiellement du fait que dans la croûte terrestre, il y a des éléments radioactifs, tels que l'uranium, le thorium et le potassium, et que quand c'est radioactif, ça dégage de l'énergie, quand ça dégage de l'énergie, ça dégage de la chaleur, et quand ça dégage de la chaleur, eh bien, ça permet de réchauffer le sol. Donc, quelle est l'idée ? L'idée est d'essayer d'utiliser cette chaleur du sol pour en faire quelque chose. Alors, bien sûr, c'est inégalement réparti, ça dépend de la géologie, cette fois-ci, ça dépend plus des vents, ça dépend plus de l'ensoleillement, ça dépend de la géologie du pays. Et vous avez une carte qui vous donne ici, la petite carte de France, qui est de ce côté-là, pardon, qui vous donne les endroits où c'est le mieux, c'est pareil, c'est en bleu, les endroits où c'est le plus intéressant d'utiliser la géothermie, à cause de la géologie du sol, cette fois-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général ? Eh bien, on fait passer de l'eau dans le sol, et puis on récupère cette eau qui a un peu chauffé au contact des roches chaudes, et on utilise la chaleur transportée par cette eau. De deux façons différentes, là encore, comme je l'évoquais toujours avec vous, soit on fait directement de la chaleur, soit on utilise cette eau si elle est suffisamment chaude pour en faire de l'électricité. Alors, en basse énergie, c'est-à-dire on utilise simplement la chaleur de l'eau pour faire un système de chauffage, c'est utilisé depuis l'Antiquité, depuis les Romains, on a trouvé des ruines archéologiques romaines où il y a des systèmes de récupération de la chaleur du sol pour chauffer des maisons. Alors, soit on fait passer directement l'eau qui est dans le sol dans les radiateurs, c'est ce qui se passe en Islande notamment, soit on fait un échangeur pour que ce ne soit pas l'eau qui est au contact des roches, qu'il soit l'eau qui passe dans l'installation de la maison, parce que notamment cette eau elle peut avoir des compositions chimiques qui sont telles que ça pourrait corroder votre radiateur s'il tient un mois, c'est pas génial comme idée. Donc on préfère échanger la chaleur de l'eau du sol avec l'eau de l'installation de la maison, et puis faire en sorte qu'on chauffe la maison de cette façon-là. Alors, typiquement, c'est utilisé pour des chauffages parfois collectifs, aussi pour les chauffages qu'on appelle de type bain et piscine, souvent dans des pays qui sont relativement froids, on utilise notamment la géothermie pour faire des piscines chauffées, ou pour chauffer des serres en horticulture ou des élevages. C'est utilisé dans 70 pays, et notamment, si je prends la photo qui est là, c'est la photo de la capitale de l'Islande, qui est Reykjavik. 80% du chauffage de la ville, en individuel et en collectif, est réalisé à partir de géothermie. Et vous voyez, c'est une ville, alors on ne voit peut-être pas, la photo est un peu petite, mais c'est une ville qui est appelée la ville sans cheminée. Puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de cheminée, vous faites passer votre eau chaude dans les radiateurs, et il n'y a aucune cheminée dans les bâtiments. si l'eau est suffisamment chaude, comme je l'évoquais avec vous, et ça, ça dépend de la géologie du sol, eh bien, on peut directement la transformer en vapeur et faire tourner une turbine, un alternateur, et produire de l'électricité. Alors, ça marche en Italie ou en Californie. Vous avez des gisements à jusqu'à 350 degrés. Hein. Typiquement, c'est ces gisements qu'on peut voir dans certaines régions qui se forment les geysers. Le geyser, la grande gerbe d'eau d'eau chaude qui sort, c'est dû à la géothermie. Vous avez des gisements moins chauds, entre guillemets, mais qu'on peut aussi utiliser. Il y en a un particulièrement en Guadeloupe, une centrale thermique de géothermie qui s'appelle Bouillante. Ça s'appelle Bouillante simplement parce que justement le nom du village sur lequel ça a été construit, on avait déjà repéré depuis bien longtemps que l'eau qui sortait des fontaines et des sources était déjà chaude, et donc le nom du village s'appelle Bouillante avant même qu'il y ait bien sûr une centrale de géothermie. Il y a un projet alsacien, pour finir, qui se trouve être dans un petit village qui s'appelle Sous-Forêt, en Alsace. Et là, on fore à plus de 5000 mètres de profondeur. Et on injecte de l'eau, cette fois-ci, parce qu'on ne peut pas récupérer l'eau directement. Donc, on injecte de l'eau sous pression jusqu'à 5000 mètres. Et on récupère l'eau qui ressort. Et donc là, on arrive à faire des choses qui sont tout à fait correctes en termes de puissance. Hein, 25 mégawatts, c'est une puissance thermique qui est loin d'être négligeable. C'est quelque chose qui a été donc tout récent, hein, qui a été inauguré en juin 2008. Dernier point que je voulais voir avec vous, ce qu'on appelle l'utilisation de la biomasse. Alors la biomasse c'est quoi? C'est tous les végétaux qui nous entourent notamment, hein, donc dans la matière vivante qui existe sur la Terre, 90% de cette matière vivante sont des végétaux. L'utilisation classique de la biomasse, comme je l'évoquais, c'est alimentation, chauffage, cuisson. C'est-à-dire que soit vous mangez directement ce que vous produisez, soit vous utilisez le bois pour vous chauffer, et soit vous utilisez le bois pour chauffer ce que vous les récoltez, pour faire en sorte que vous puissiez les manger. Donc ça, c'est les utilisations classiques. Les nouvelles utilisations, qui sont donc, entre guillemets, développées depuis quelque temps, c'est de faire ce qu'on appelle la cogénération, c'est-à-dire qu'en même temps que vous utilisez la chaleur, vous essayez de produire de l'électricité. Parce que finalement, quand vous produisez de la chaleur, vous allez avoir un peu de vapeur, il suffit de récupérer cette vapeur, vous allez faire tourner une turbine et on peut y arriver. Une autre utilisation, c'est d'utiliser la fermentation. C'est-à-dire que d'utiliser un biogaz qui est issu de la fermentation des matières organiques et d'utiliser ce gaz comme un gaz naturel, comme celui que vous avez dans les gazinières classiques pour faire la cuisine. Troisième utilisation, j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle les biocarburants. C'est-à-dire utiliser la matière végétale pour la transformer en carburant de synthèse, mais issu de matériaux biomasse, donc ce qu'on appelle les biocarburants. Celui-là, oui. Alors voilà. Si j'en viens aux biocarburants, quel est l'intérêt? Alors, dans les biocarburants, il y a les biocarburants qu'on appelle de première génération. C'est ceux qu'on utilise notamment au Brésil, ceux qu'on utilise un peu partout. On utilise en général des matières qui sont riches en sucre, la betterave ou de la canne. Et puis de ce sucre, on transforme en alcool, et cet alcool, par différents procédés chimiques, on arrive à le transformer en biocarburant. On s'est aperçu notamment que cette voie-là, elle avait un grand défaut, c'est qu'elle utilisait beaucoup d'espace agricole, et que finalement ça ne nourrissait personne, ça demandait beaucoup d'eau, et qu'en fait, par un procédé chimique, on en faisait du carburant qui allait servir à bien d'autres pays que ceux dans lesquels sont exploitées ces cultures. Donc finalement, on prive les gens d'une ressource alimentaire, on utilise leur eau, et on va vendre le carburant ailleurs. Alors c'est pas si génial que ça, en termes de développement durable et en termes de développement tout court, et donc une des idées consiste à utiliser une voie chimique où on n'utilise pas la partie qu'on mange d'une plante, mais la partie qu'on ne mange pas. À savoir, soit la plante entière, il s'agit d'une plante immangeable, ce qui arrive, soit la paille, soit le bois, soit les copeaux, soit la sciure, par exemple si on est près d'une scierie, etc. Moyennant quoi, par un procédé chimique qui est connu et qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle industrielle, en rajoutant de l'énergie, alors qu'est-ce que c'est rajouter de l'énergie, c'est-à-dire rajouter de la chaleur, qu'on peut prendre, elle aussi, issue de déchets, hein, les fameux biogaz que j'évoquais avec vous, en utilisant, moyennant quoi, pour faire un peu de chimie, mais pour utiliser un peu d'hydrogène, alors si on produit cet hydrogène de façon correcte, c'est encore plus sympathique, eh bien on obtient un carburant, que j'appelle un vrai carburant vert, puisque, entre guillemets, on peut le mettre en œuvre sans produire de CO2. Alors, à quoi ça sert ce carburant? Eh bien, Comme je le disais, ça permet de valoriser toute la plante, parce que cette fois-ci, on utilise, quand la plante, même si la plante n'est pas mangeable, on utilise la plante des fleurs jusqu'à la racine. Ça permet, en plus, c'est une filière qui a un fort potentiel, parce qu'il y a un grand gisement de bois, de forêt, de matière, de déchets, entre guillemets, végétaux qu'on n'utilise pas, qui ne sont pas valorisés. Ça peut marcher dans les postes à essence classiques, hein, parce que ça, il faut vous dire aussi que c'est pas parce que vous avez une idée lumineuse pour une nouvelle source d'énergie, si vous n'arrivez pas à la distribuer, il est clair que vous n'arriverez pas à mettre votre idée en corrélation avec le développement industriel. On peut l'utiliser dans un parc classique automobile européen, et c'est quelque chose qui est moins polluant finalement, on trouve quelque chose qui est moins polluant que d'habitude. Donc vous avez quand même des points forts de ce qu'on appelle la filière BTL, à savoir, qui veut dire en anglais, biomass to liquid, c'est-à-dire faire des carburants liquides à partir de la biomasse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là? Dans les transports, j'évoquais avec vous la chaleur, l'électricité, je voudrais juste finir en évoquant le domaine des transports. Eh bien, je peux utiliser mes fameux biocarburants dans un véhicule diesel, donc c'est toujours mieux d'utiliser du biocarburant que d'utiliser du pétrole. Je peux essayer d'imaginer un véhicule qui marche moitié électricité, moitié avec mes biocarburants, par exemple avec une batterie rechargeable, l'électricité, ou je peux même utiliser dans les villes, notamment des véhicules qui ne font pas énormément de kilomètres chaque jour, imaginer un parc de véhicules entièrement électriques. Donc vous avez même dans les transports le moyen d'utiliser des énergies dites renouvelables, ou en tout cas des énergies non émettrices de gaz à effet de serre. Bien sûr, si on pense à l'électricité, il faut dans ce cas-là avoir l'idée de ne pas produire l'électricité en faisant du CO2. C'est, par exemple, il y a un grand nombre de pays qui utilisent du charbon pour faire leur électricité. Si vous utilisez le charbon pour faire l'électricité que vous mettez dans la voiture pour économiser le CO2, vous en avez produit tellement pour produire votre électricité que le bilan, il n'est pas du tout bon. Donc dans ce cas-là, vous mieux utilisez du pétrole, presque, j'ai envie de dire. Donc tout ça, c'est comme prendre le train. La pub de la SNCF qui vous dit prenez le train, c'est un des modes de déplacement vert. C'est vert parce qu'en France, effectivement, l'électricité, elle est produite par l'hydraulique et le nucléaire qui met pas de CO2. Vous prenez l'électricité allemande ou l'électricité danoise qui sont fabriquées à partir du charbon, eh bien le train c'est à peine plus vert que la voiture. Donc ça il faut se souvenir qu'effectivement c'est pas le tout de faire des trucs électriques. Si vous utilisez des sources d'énergie qui émettent du CO2 pour faire de l'électricité, vous n'avez pas gagné grand chose. Et puis dernier point, ce qu'on appelle la convergence habitat-transport, alors peut-être dans le développement durable on vous en a déjà parlé de cette affaire-là, c'est faire en sorte de conjuguer les deux et d'utiliser les uns ou les autres quand on n'en a pas besoin. Par exemple, votre voiture, en général, la nuit, vous en servez moins que pendant la journée, si vous allez en déplacement, etc. Vous utilisez une batterie électrique et vous rechargez votre batterie la nuit. Bon, ça peut se concevoir dans votre garage, ou etc. Mais il peut y avoir des moments où, effectivement, vous avez besoin d'électricité dans votre maison, votre voiture ne roule pas, c'est le week-end, vous avez décidé que vous ne rouliez pas avec, ben, vous pouvez utiliser l'électricité de la batterie pour éclairer votre maison. Bien sûr, pas maintenant, mais c'est des développements futurs, très proches, qui peuvent s'imaginer. Une autre chose, c'est qu'en général, quand vous allez, par exemple, à votre travail, vous n'utilisez pas votre voiture pendant tout le temps. Il y a des tas de lieux de travail où, en fait, on l'utilise pour y aller et on la reprend le soir pour rentrer. Et bien, à ce moment-là, si, notamment dans les pays un peu ensoleillés, vous utilisez un parking avec des cellules solaires, vous avez votre voiture à l'ombre, d'abord, ce qui est plutôt bien. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre la clim quand vous rentrez dedans. Et en plus, avec les panneaux solaires, elle est rechargée pendant la journée, grâce au soleil. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la convergence habitat-transport, c'est imaginer des bâtiments qui soient tels qu'il y ait des fonctions qui ne soient pas exclusivement liées à l'aspect bâtiment, mais aussi à l'aspect transport. C'est quelque chose qui se développe pas mal. Je termine avec... Voilà. Comme je l'évoquais avec vous, on a tous plus besoin d'énergie et on doit tous faire attention à l'environnement. À partir de là, on a forcément une énergie qui va devenir plus chère et plus rare, ou plus rare et donc plus chère. Donc l'utilisation des sources d'énergie doit toujours être pensée selon trois voies que j'ai l'habitude, moi, d'appeler énergie. Alors je ne fais pas du tout de pub pour les radios, mais c'est N comme novatrice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se priver de trouver des procédés innovants. Ça peut être les biocarburants que j'évoquais avec vous. Ce qu'on appelle la PAC, ce n'est pas la politique agricole commune chez moi, c'est la pile à combustible. Du nucléaire, ce qu'on appelle de quatrième génération. De la fusion, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du projet ITER. Bref, il ne faut pas se priver de chercher des tas de nouveaux moyens de produire de l'énergie et donc d'utiliser nos moyens de recherche scientifique, ce que j'appelle novateur. Ça doit être rigoureux. Pourquoi ça doit être rigoureux? Parce que quand on n'en a pas beaucoup, il faut faire attention de ne pas la gaspiller. Et notamment, deux points importants là-dedans, augmenter les rendements c'est-à-dire de diminuer les pertes, par exemple, mieux isoler, ne serait-ce que mieux isoler votre maison, mais mieux isoler des tas d'autres choses dans l'utilisation industrielle de l'électricité. Et puis favoriser la cogénération, c'est-à-dire faire à la fois, par exemple, de l'électricité et de la chaleur, ou de la chaleur et de l'électricité. Utiliser la vapeur qui a servi à faire quelque chose pour ensuite faire tourner une turbine et produire encore de l'électricité. C'est-à-dire utiliser au mieux l'ensemble des ressources énergétiques qui sont comprises dans le moyen qu'on a mis en œuvre. Et puis dernier point, judicieux. Pourquoi ? Parce que comme je l'évoquais avec vous dès le début, il faut choisir la bonne source pour le bon usage. Il est clair qu'il y a des choses, comme je l'évoquais avec vous, si vous utilisez de l'électricité pour faire marcher une voiture électrique, ça ne sert à rien d'avoir produit l'électricité à partir du charbon. Donc voilà, il faut toujours avoir à la pensée ces critères-là pour utiliser, concevoir, imaginer une source d'énergie. Et il ne faut pas s'imaginer que seul l'industriel qui construit le barrage ou qui construit une locomotive ou Dieu sait quoi est celui qui choisit son moyen d'énergie. Vous tous, dans la vie quotidienne, vous avez parfois le choix de vos sources d'énergie. Alors, évidemment, à une autre échelle, mais c'est quand même aussi une démarche qu'il faut avoir à l'esprit, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille. Voilà, je vous laisse avec quatre sites sur lesquels on peut retrouver un certain nombre de choses qui sont marquées là en bas. Le site de l'ADEME, notamment, qui est une agence française. Euroobserveur, qui est un baromètre sur tout l'ensemble des renouvelables en Europe. Le site du CEA, donc l'organisme dans lequel je travaille. Et le site energie.edf.com, puisque EDF développe aussi des énergies renouvelables. Donc vous avez tout un chapitre sur les énergies renouvelables. Et voilà, donc j'espère avoir été relativement clair. Et je vous donne la parole maintenant pour des questions.